Haute-Ariège. Haute-Ariège, du swing, des blues notes et du rythme avec Bruno Blue Boy. Et on commence l'émission avec une des plus grandes stars de la soul music, Wilson Pickett. On va écouter un de ses morceaux les plus connus, Land of Thousand Dances. C'est la reprise d'un titre de Chris Kenner, hein, paru en 1962. La version de Wilson Pickett, sortie en 1966 chez Atlantic, a atteint la première place au Billboard R&B et la sixième au classement pop. Vous savez le na 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 na. Et ben voilà, Ontario, je vous l'offre. C'est maintenant Wilson Pickett, Land of Thousand Dances.
One, two.
Wilson Pickett, Land of Thousand Dances. Alors, voilà, petit problème technique. Je précise que son nananana ne figurait pas dans la version originale due à Chris Kenner. Voilà, Wilson Pickett l'a repris d'un autre groupe. Et là, on peut dire qu'il a créé un genre, puisque ça a été repris à maintes reprises par la suite par des artistes les plus divers. On trouve ce morceau sur de nombreuses compilations. J'ai utilisé celle d'Atlantic, éditée sous le titre Atlantic Soul Legends. On peut citer également celle qui est parue chez Reno en version 4 CD, Wilson Pickett Original Album Series. Wilson Pickett est né en Alabama en 1941. Il a commencé dans le gospel et il a côtoyé des artistes qui ont fait ultérieurement de belles carrières en solo comme Mac Rice, Eddie Floyd, au sein d'un groupe qui s'appelait les Falcons. Il a décroché avec ce groupe un succès en 1961, I Found a Love. Il a décidé de se lancer dans une carrière solo l'année suivante et dès 1963, il a obtenu un hit avec It's Too Late. C'est en 1964 qu'il a signé chez Atlantic et s'en est suivi une longue série de succès. longue série de succès qui sont devenus autant de standards de la soul music comme In the Midnight Hour, ou encore Funky Broadway, ou bien sûr Land of Thousand Dances qu'on vient d'entendre. Wilson Pickett a obtenu 49 titres au Billboard R&B, dont 5 en première position. 6 de ses albums ont été classés dans le top 10. C'est évidemment une figure majeure de la soul. Wilson Pickett est décédé en 2006. On continue avec Georgia White, une chanteuse de blues classique. Alors, on dit blues classique, mais en fait, c'est-à-dire une chanteuse d'avant-guerre qui s'exprimait dans un style qu'on a qualifié parfois de vaudeville blues, parce qu'il était souvent joué sur des scènes de théâtre. Georgia White est l'une des rares chanteuses de cette époque à avoir pu faire évoluer son style et poursuivre une carrière jusque dans les années 60, grâce à une approche mêlant le blues, le jazz, voire le rhythm and blues. On écoute Trouble in Mind, un morceau qu'elle a fait paraître sur un single 78 tours Decca en 1936. C'est un grand classique du blues dont les origines remontent au loin, au 19e siècle. C'est le pianiste Richard M. Jones qui lui a donné en 1924 sa forme définitive. La première version enregistrée est celle de Bertha Chippy Hill, gravée en 1926 avec le compositeur Richard M. Jones au piano ainsi que Louis Armstrong. La version de Georgia White a connu un grand succès. Trouble in Mind a été interprétée par la suite par un grand nombre d'artistes dans des styles très divers. Le blues par Big Bill Bronzy, Lightnin' Hopkins et d'autres, le jazz par Nina Simone, le rhythm and blues par Fats Domino, le rock and roll par Jerry Lewis et même le Zydeco par Clifton Chenier. Voilà, on écoute Georgia White, Trouble in Mind. Il y a eu une petite erreur technique. Je m'en excuse. On va rétablir ça tout de suite. Voilà Georgia White.
Trouble in mind, I'm blue. My whole heart is beating slow. Never had so much trouble in my life before.
Georgia White, Trouble in Mind. Georgia White au chant était accompagnée par le compositeur de la chanson Richard M. Jones au piano, Ikey Robinson à la guitare et John Lindsay à la contrebasse. On trouve ce morceau de 1936 sur le coffret de deux CD édité par Best of Blues Records sous le titre La Grande Époque du Blues 1926-1943. George White est une chanteuse de blues née en 1903, peut-être en Géorgie. Les débuts de sa vie sont mal connus. Ce qu'on sait, c'est qu'elle chantait dans des clubs à Chicago dès les années 20. Elle a réalisé son premier enregistrement en tant que chanteuse dans l'orchestre du jazzman Jimmy Noon en 1930. Elle a gravé sous son nom plus de 100 faces pour Decca entre 1935 et 1941. Si elle a dû attendre plusieurs années avant de reprendre le chemin des studios, c'est peut-être la conséquence de la crise de 1929. Beaucoup de chanteuses des années 20 ont disparu de la scène. Georgia White, elle, a pu continuer sa carrière. Elle a pu se faire accompagner par le pianiste Richard M. Jones et par le guitariste Lonnie Johnson. Dans les années 40, Georgia White a formé un groupe féminin. Elle a chanté avec des bluesmen comme Bumblebee Slim et Big Bill Bronzy. Elle a continué à enregistrer quelques disques en 1946, en 1954. Dans les années 50, elle se produisait encore dans les clubs de Chicago. Georgia White a arrêté dans les années 60 et elle est décédée en 1980. Voilà pour notre chanteuse d'avant-guerre. On va ouvrir maintenant une page de rockabilly avec Fred Crawford qui a sorti 9 singles Starday entre 1953 et 1957. On écoute un titre de 1956, Rock Candy Rock. Fred Crawford, Rock Candy Rock. Fred Crawford, Rock Candy Rock. On trouve ce morceau sur le coffret de 50 CD Rockabilly Dynamite, édité par The Intense Media. Fred Crawford est né en 1928. Il a sorti ses disques entre 1953 et 1957 chez Starday, un label du Texas. Certains morceaux, comme Rock Candy Rock, sonnent clairement rockabilly. D'autres sont nettement plus orientés country. À cette époque-là, beaucoup essayaient de jouer sur les deux créneaux. Malin. Voilà, il semble qu'il ait arrêté Fred Crawford à la fin des années 50. Plus tard, il s'est fait DJ pour une station d'une petite ville du Texas et il est décédé en 1998. Voilà pour notre séquence rockabilly. Et on fait un petit tour en Louisiane à présent avec Happy Fats, un musicien cajun qui a enregistré dans les années 30-40 de nombreux singles pour le label RCA avec son groupe les Rainbow Ramblers qu'il a fondé en 1935. Un mot d'explication sur ces Ramblers. Ramblers, randonneurs, vagabonds. Rainbow s'écrit en deux mots. R-A-Y-N-E, plus loin B-O, avec un tiret entre les deux. En fait, Happy Fats a bricolé ce nom en faisant un jeu de mots à partir de sa bourgade natale, Rain. R-A-Y-N-E, en ajoutant le mot « beau », ce qui donne la même sonorité que le mot « rainbow » qui signifie « arc-en-ciel » en anglais. Les Rainbow Ramblers ont compté dans leur rang des musiciens de premier plan comme Harry Schultz ou Nathan Abshire. Ils ont enregistré abondamment pour Bluebird, la marque de la maison RCA Victor, pour le blues et le country. On écoute « La place, mon cœur désire », un morceau gravé le 10 septembre 1937. Allez, Happy, on espère que tu vas la décrocher, cette fameuse place. Happy Fats, la place mon cœur désire. Happy Fats, la place mon cœur désire. Ce morceau est tiré du 4e volume d'un coffret JSP de 4 CD intitulé Cajun Country 2, More Hits from the Swamp. Happy Fats s'appelait le roi Leblanc de son vrai nom. Il est né en 1915 et il a commencé à jouer en 1932 avec le pionnier légendaire de la musique Cajun, Joe Falcon. Happy Fats a rejoint en 1941 les Rhythm Boys de Léo Swallow. En 1953, il a créé le premier programme radiophonique consacré à la musique francophone avec chaque matin des chansons et des débats. Il est devenu extrêmement populaire et dans les années 60, il a pu de nouveau enregistrer, cette fois pour le producteur Jay Miller, inlassable promoteur local des musiques populaires de la Louisiane, Swamp Blues, Swamp Pop, Cajun, Zydeco, etc. Happy Fats LeBlanc est décédé en 1988. Il était connu pour sa défense acharnée de la langue française, à un moment où elle était sérieusement battue en brèche, et d'ailleurs elle a quasiment disparu en Louisiane de nos jours. Voilà, c'était un peu de Cajun dans cette soirée. On est parti de la Louisiane, on embarque pour le Mississippi maintenant avec l'artiste suivant, Papa George Lightfoot. Au cours du blues revival des années 60, des chercheurs ont retrouvé des artistes souvent oubliés depuis bien longtemps, jusqu'à plus de 30 ans pour certains. Le cas de Papa George, lui, c'est différent. Il s'était produit dans les années 50 et il avait arrêté de travailler dans une boucherie. Il avait arrêté pour travailler dans une boucherie quand un producteur s'est rendu en 1969 à sa recherche dans sa ville natale de Natchez. Ce producteur l'a trouvé et Papa George Lightfoot a pu sortir un album 33 tours complet alors qu'il n'avait fait paraître jusque-là sous son nom qu'une poignée de singles. On écoute un morceau de cet album de 1969, Papa George Lightfoot, Natchez Trace, édité par Vought aux États-Unis, puis par Liberty au Royaume-Uni. Le morceau s'intitule « My woman is tired of me lying ».« Ma femme est fatiguée de mes mensonges ». Bah oui, quoi, ça se comprend. Oh là, Papa George, va falloir arrêter de baratiner. Papa George Lightfoot, « My woman is tired of me lying ».
I'm tired of me lying.
Papa George Lightfoot, My Woman is Tired of Me Lying, avec Papa George Lightfoot au chant et à l'harmonica, Carson Whitsett au piano, Jerry Puckett à la guitare, Ron Johnson à la basse et Tommy Tate à la batterie. L'album 33 tours de 1969, Natchez Trace, a été réédité en 1994 en CD par le label Ace sous le titre Going Back to the Natchez Trace, avec les 8 morceaux du vinyle long play, plus 5 morceaux inédits et une conversation enregistrée avec Papa George. A noter que ce dernier avait gravé en 1955 pour Savoy une première version de My Woman is Tired of Me Lying. A ma connaissance, cette version originale n'a jamais été éditée. Alexander Donaldson Lightfoot, parce que c'est le vrai nom de Papa George, est né à Natchez, bien sûr, dans le Mississippi en 1924. Il a eu l'occasion de fréquenter les vedettes de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire Fats Domino, Tommy Ridgely, Shirley Henley, Champion Jack Dupree, Smiley Lewis. Il a participé à un enregistrement pour le label Peacock en 1949 avec un groupe qui s'appelait les Gondoliers. Le premier single paru sous son nom est celui du label Sultan, qui lui a donné en 1950 son pseudonyme de Papa George. Ce dernier a continué à enregistrer sous des noms divers, Little Papa Walter, Papa Lightfoot ou Papa George Lightfoot, pour plusieurs marques jusqu'en 1956, Aladdin, Imperial et Savoy. Les morceaux sont parus sur un CD official dans les années 90, intitulé Papa George Lightfoot and Sammy Myers Blues Harmonica Wizards. Voilà. Papa George Lightfoot a fait des tournées avec Sonny Boy Williamson, Rice Miller, Champion Jack Dupree et Smiley Lewis. Il est apparu dans un film et il a fait des émissions de radio à Natchez. Il a quitté la scène musicale à la fin des années 50. Il est devenu livreur dans une boucherie. C'est le producteur Steve Laver qui l'a retrouvé une dizaine d'années plus tard à Natchez et lui a permis de sortir l'album 33 tours Natchez Trace. Papa George avait été tiré de l'obscurité, mais malheureusement, il n'a pas pu vraiment profiter de sa nouvelle notoriété, car il est décédé dans sa ville natale de Natchez 2 ans plus tard, en 1971. Voilà pour l'histoire de Papa George Lightfoot. Et on enchaîne avec un pionnier de la country music, le chanteur-guitariste Riley Puckett. Ce dernier est devenu aveugle suite à un accident dans son enfance. Riley Puckett a sorti plus de 200 disques pour Columbia, Bluebird et Decca entre 1924 et le début des années 40. C'est lui, avant Jimmy Rogers, qui a introduit le yodel dans la country. Et ça, c'est pas rien. On écoute Chain Gang Blues, un morceau gravé pour Bluebird à San Antonio, Texas, le 29 mars 1934. Riley Puckett, Chain Gang Blues. Red. Riley Puckett, Chain Gang Blues. Ce morceau, paru à l'origine sur un single Bluebird en 1935, est disponible sur le coffret Frémo de deux CD intitulé Hillbilly Blues 1928-1946. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un féminicide, figurez-vous. Le gars tue sa femme qui le trompe, s'enfuit en train, se fait arrêter et se fait coller en prison. Bon voilà, le jugement est peu clair. L'histoire se termine sur une phrase du juge qui déclare « Je ne crois pas que tu tueras à nouveau une femme ». Oui, d'accord, mais est-ce que c'est parce qu'il lui inflige 99 ans de tôle ou bien parce que l'auteur des faits aura retenu la leçon ? Eh bien, on ne sait pas et on notera que le ton léger de la chanson contraste étrangement avec l'histoire d'un crime. Riley Puckett est né en 1894 à Dallas, non pas au Texas, mais en Géorgie. Ouais, c'est pour ça que les Américains, lorsqu'ils désignent une ville, précisent toujours l'état dans lequel elle se trouve, parce qu'il y a plein de noms de villes qui sont pareilles un peu partout. Riley Puckett a commencé sa carrière au sein d'un groupe, les Hometown Boys, qui se produisait à Atlanta, en Géorgie. Puckett s'est fait connaître par la radio à partir de 1922. Les émissions ont duré jusqu'en 1926. Entre-temps, il s'était rendu à New York en 1924 en compagnie du violoniste Guy Tanner. Ils ont enregistré ensemble pour Columbia. C'est ainsi que Riley Puckett a été le premier artiste country du label Columbia. Riley Puckett a formé un groupe avec son copain violoniste Guy Tanner and his Skillet Lickers. Ce groupe a fonctionné jusqu'en 1934 et a abondamment enregistré pour Columbia, Decca et Bluebird. Par la suite, Riley Puckett a continué sa carrière en solo jusqu'au début des années 40. Il est décédé en 1946. Il a développé un jeu en fingerpicking qui a influencé en partie tous les guitaristes des Appalaches ultérieurs, notamment les Delmore Brothers et Doc Watson. Voilà pour Riley Puckett et notre page country. L'artiste suivant, eh bien, c'est le chanteur-guitariste Fenton Robinson. Ce disciple de B.B. King a fait partie dans les années 60-70 d'une jeune garde de guitaristes inventives qui a contribué à la perpétuation du blues. Fenton Robinson n'a pas eu trop de chance dans sa carrière et il n'a certainement pas été reconnu à sa juste valeur. On écoute son morceau fétiche « Somebody Loan Me a Dime » gravé à Chicago en mai 1967 pour le label Palos. Fenton Robinson, Somebody Loan Me a Dime. All night long.
somebody here in my home. Up there. At that time I just didn't understand. Oh, I know she's a good girl. But at that time I just didn't understand. But oh, somebody's hungry and dying just to ease my worrying mind.
Fenton Robinson, Somebody Loan Me a Dime. Quelqu'un m'a prêté un centime, j'ai besoin d'un coup de main. Bon, alors, t'étais dans la dèche, Fenton, ça, on peut le comprendre. Un centime, on va pas bien loin avec ça. Mais quel est le rapport avec le fait que t'aies besoin de ta petite chérie qui manifestement ne veut rien entendre? Tu dis qu'à ce moment-là, tu ne comprenais rien? Bah, nous, c'est un peu pareil. Hein. Voilà. Alors, on avait Fenton Robinson au chant et à la guitare, Kenneth Sands à la trompette, Bobby Forte au saxo ténor, Alberto Gianquino au piano, Leo Lauchi à la basse et Sonny Freeman à la batterie. J'ai tiré ce morceau, paru à l'origine en 1967 sur un 45 tours Palos, eh bien, je l'ai tiré d'un album 33 tours édité en 1978 par Red Lightning sous le titre Fenton Robinson Guitar Star. Il est arrivé à Fenton Robinson une terrible mésaventure. Une tempête de neige, une tempête, mais alors monstre, à Chicago, a empêché la distribution nationale de Somebody Loan Me a Dime. Deux ans après, en 1969, un obscur chanteur de rock, Buzz Skax, a repris le morceau et s'en est attribué la composition. Il s'en est suivi une âpre bataille juridique, mais Fenton Robinson n'a jamais réussi à récupérer les droits. Voilà, c'est vraiment vache. Le vrai prénom de Fenton Robinson est Fenton, avec un I entre le T et le O. Il a adopté ce nouveau prénom en 1968. Alors, pourquoi a-t-il laissé tomber le I dans son prénom? Franchement, je n'en sais rien. Voilà. Il est né en 1935 dans le Mississippi. Très vite, il s'est rendu à Memphis où il a joué avec Bobby Blue Bland et Roscoe Gordon. Il a réalisé son premier 45 tours en 1957 chez Meteor. Il a joué ensuite dans l'orchestre de Billy Gales. Puis il s'est rendu dans l'Arkansas où il a rejoué avec Bobby Bland et il a enregistré pour Duke en 1958-59. Fenton Robinson a ensuite formé son propre orchestre et il a fait des tournées, mais il n'arrivait pas à vivre de sa musique dans le Sud. Il a dû bosser chez Coca-Cola, et oui, il faut bien vivre. Et il a gagné Chicago où il a joué avec Junior Wells, puis avec Otis Rush. Il a reformé un orchestre en 1966 et il a enregistré pour des marques diverses comme USA, Palos ou Giant. Il a continué à enregistrer pour Soundstage et 77. En 71-72, il a travaillé avec l'harmoniciste Charlie Musselwhite. En 73, avec Big Mojo LM. En 74, il a gravé un album pour Alligator et il a récidivé en 1977. Suite à un accident de voiture, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire et il a fait de la prison. Il a encore sorti deux albums chez Black Magic, le premier en 1984, le second en 1989. Fenton Robinson est décédé en 1997. On poursuit avec le groupe de blues Mississippi Heat qui a réalisé une intéressante synthèse entre le blues de Chicago classique des années 50-60 et le blues moderne. Le leader du groupe est l'harmoniciste Pierre Lacocque. On écoute un morceau de leur album Footprints on the Ceiling, paru chez Crosscut Records en 2002. Le morceau, bah, il porte tout simplement le titre de l'album Footprints on the Ceiling, des traces de pas au plafond. Oh là là, ça c'est louche. Il a dû se passer quelque chose de pas normal. Soit une bête curieuse a pénétré dans la maison, bah, soit il y en a peut-être qui ont abusé de l'alcool. Mississippi Heat, Footprints on the Ceiling.
a week. Soon my room is gonna spring a leak.
Mississippi Heat, Footprints on the Ceiling, avec Pierre Lacocque, le leader, à l'harmonica, Chris Winter au chant et à la guitare, Michael Thomas à la guitare, Ineta Visor au chant, Phil Barron au piano, en guest, en invité, Roger Weaver au clavier, Stephen Howard à la basse et Kenneth Smith à la batterie. Le groupe s'est formé en 1991 dans un café de Chicago. Les quatre musiciens d'origine étaient le chanteur-pianiste John McDonald, le batteur Robert Covington, le bassiste Bob Strouger et évidemment l'harmoniciste Pierre Lacocque. Le groupe n'a pas cessé d'évoluer au fil des ans. Il a compté dans ses rangs des gens comme le guitariste James Wheeler ou la chanteuse Deirdre Farr. Leurs albums comptent aussi des invités de marque, des guest stars, comme Billy Boy Arnold dans Footprints on the Ceiling ou encore Laurie Bell, Kelvin Jones, John Primer. Mississippi Heat a fait paraître 13 albums en tout depuis 1992, 5 chez Van der Linden, leur propre label, 2 chez Crosscut et 6 chez Delmark. Le dernier date de 2022. Voilà pour Mississippi Heat. L'artiste suivant, Willie Morris, a été découvert à l'occasion du Blues Revival. Willie Morris est né dans le Mississippi, il a vécu à Memphis et il s'est finalement retiré dans l'Ohio. Voilà un monsieur qui a voyagé. On écoute un morceau gravé en 1969 à Memphis pour Adelphi. My good woman has quit me. Ma super femme m'a quitté. Alors ça, c'est sûr, c'est un truc qui te refile le blues. Willie Morris, my good woman has quit me.
Put me down. After the day she quit me, I believe I'm gonna lose my mind. You know it's a troubling mind when a good woman leave your door. After the troubling mind when your good woman leave your door. Well, the blues overtake you, man. What a thing you ever had before. I said, don't do nothing but give a man a doggone rambling mind. But give him a good man a rambling mind. You know that when his good woman leaving, seems like someone troubling mine.
Play a little while, boy. Yeah. Thank you.
lay down last night. Blues all around my bed. Yes, I lay down last night. Had the blues all around my bed. Says I got a new last night. That my pig meat one was dead.
One more time now, let's go on out.
Willie Morris, My Good Woman Has Quit Me. Ce morceau était tiré d'un album 33 tours intitulé The Memphis Blues Again, An Anthology of the Blues Today in Memphis, volume 2. Cette compilation a été publiée par Adelphi en 1971. À ma connaissance, elle n'a jamais été rééditée en CD. Willie Morris est né dans le Mississippi en 1906. Il a mené une vie vagabonde dans sa jeunesse. À la fin des années 20, il a joué avec Kokomo Arnold, l'une des personnalités dominantes du blues des années 30. C'est en 1938 que Willie Morris s'est établi à Memphis, où il a côtoyé les artistes locaux. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est fixé dans l'Ohio et il a renoncé à la musique. Il a été retrouvé en 1969 par Steve Lavere, grâce auquel il a pu enregistrer pour Adelphi. Il a participé ensuite à des festivals, il s'est produit ici ou là. Voilà, et Willie Morris s'est éteint en 2002. On enchaîne avec du doo-wop. Stanley Mitchell and the Tornadoes. Le groupe n'a pas tourné longtemps, juste le temps de faire quelques disques à la fin des années 50. Mitchell a toutefois continué en solo. On écoute Would You Could You, paru en février 1957 sur un 45 tours Chess. Stanley Mitchell, Would You Could You. Stanley Mitchell, Would You Could You. Ce morceau est tiré d'un coffret Fantastique Voyage de 3 CD intitulé Brizzy Sugar, The Pure Essence of Chicago Rock and Roll. Stanley Mitchell est né à Détroit en 1935. Il a formé son premier groupe, The Cherokons, en 1955. Ayant attiré l'attention de Lionel Hampton, le groupe a pris le nom de Hamptons. Voilà. Et dès l'année suivante, Mitchell a formé un autre groupe, The Tornadoes, avec le ténor William Witherspoon, le baryton Charles Sutton et le basse Ben Knight. Ils ont réussi à décrocher un contrat avec Chess, la maison de Chicago. Chess a édité le 45 tours qui contient Would You Could You, mais le label en est resté là, laissant de nombreux morceaux inédit. Stanley Mitchell a continué en solo. Il a sorti quelques disques dans les années 60 avant de former un groupe, The People's Choice, qui s'est tourné vers le disco dans les années 70. Et bien voilà, c'est avec Stanley Mitchell que se termine cette émission, qui sera naturellement rediffusée samedi prochain. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.